vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Sébastien au 3921. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien. Oh, je suis un petit peu, en fait, j'ai changé de studio, alors je cherche un petit peu, je trouve mes marques, mais voilà, c'est un grand studio, donc voilà. Okay. Comment allez-vous, Sébastien ?
Écoutez, ça va bien, merci de m'accueillir. Je vous prie de m'excuser auprès de vous et aussi auprès de Florian.
C'est oui.
Florian,
hein.
Parce que j'ai fait des fautes manip. Je devais intervenir hier et puis voilà, je tenais à m'excuser parce que voilà, c'était important pour moi de le faire. Et auprès de vous et auprès de Florian. Voilà.
D'accord, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes là, c'est le principal, Sébastien. Voilà.
Surtout que j'ai fait une fausse manip juste avant, là, il y a 2 minutes, et donc j'ai bon.
Ouais. Bon, parfois il y a l'œil. En fait... Vous savez, on pense qu'on a l'œil, et puis en plus quand on pense qu'on a l'œil, il se passe des choses. Vous savez, quand j'étais petit, par exemple, j'étais persuadé d'avoir un problème avec tout ce qui était électrique, et donc ni une ni deux, à chaque fois que j'avais un vélo ou une mobylette, eh bien je tombais en panne à chaque fois avec les phares, et c'était ma grande hantise. Et je pense que quand on a une grande hantise comme ça, on provoque les choses. Vous voyez?
Oui. Ouais,
donc vous êtes là, bon. Maintenant.
Voilà, maintenant je suis là. Et donc je vous remercie de pouvoir m'exprimer, de me donner la parole. Je me souviens d'avoir eu envie de m'exprimer à la suite d'un témoignage que j'ai entendu il y a deux soirs de ça. Je me rappelle plus très bien de quoi il s'agissait, mais je crois que... En fait, pour vous expliquer rapidement, je vais essayer d'être clair parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête. Mais en gros, ça fait à peu près un an que je suis dans une situation personnelle très compliquée sur tous les plans, professionnels, personnels. Sur tous les plans, j'ai explosé en plein vol. J'ai fait un burn-out.
Oui.
Et après quoi, une dépression avec, en 2019, 5 mois d'hospitalisation parce qu'avec des idées noires et presque des passages à l'acte. Je parle de suicide.
Oui.
Donc vraiment une année très difficile. Sachant que tout ça arrive donc en 2019, sachant que entre j'ai 40 ans, hein, et sachant que entre 2003-2004, c'est-à-dire à la fin de mes études, et 2015, je me suis enfoncé progressivement dans une addiction, l'alcool pour le citer, et ça a été un enfer pour moi et pour mon entourage. Pourquoi est-ce que je précise ça? C'est parce que quand je travaille, alors c'est pour ça que je choisis un pseudo, même si j'espère que certains me reconnaîtront, et notamment mon administration, parce que c'est aussi un peu un coup de gueule que j'ai envie de lancer là ce soir. C'est parce que quand je suis rentré dans cette administration en 2006, j'étais à côté de la plaque parce que malheureusement j'avais sombré, je commençais à sombrer déjà pas mal dans l'alcool, ce qui m'a pas empêché de réussir une première sélection et commencer à évoluer en grade. Mais ensuite, j'ai vraiment sombré entre 2010 et 2015, année où, après des suivis, après avoir rencontré le soin, parce qu'avant même le soin, je savais même pas que c'était une maladie, que la dépendance, soit l'alcool, d'autres produits, mais pas que les produits, hein, le jeu, certains comportements, tout ce qui est autour de la dépendance, c'est une maladie, et c'est même prouvé au niveau du cerveau. Je me suis même formé par rapport à ça. Enfin, bref. Et donc, tout ça pour dire que déjà pour faire passer un message important pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, que la dépendance à n'importe quel produit, que ce soit un produit ou un comportement, c'est une maladie, que la personne qui en est malheureusement atteinte en souffre, et que si en plus elle est pointée du doigt et discriminée, c'est tout sauf l'aider. Et que cette personne, en général, elle attend qu'une chose, c'est qu'on lui tende la main. Parce que je l'ai vécu de l'intérieur, en fait.
Et vous avez raison d'évoquer ce côté-là des choses. Parce que justement, il est rare qu'on tende la main à quelqu'un qui souffre de ce type de mal. Et non seulement on ne lui tend pas la main, mais souvent ces personnes-là sont victimes du regard, du jugement des autres, pour ne pas dire même de comportements qui vont les enfoncer encore plus, parce que on est fragile dans ces cas-là. Vous me confirmez?
Parce qu'on est fragile et en face, effectivement, on a souvent un regard. Ou alors, il y a deux cas de figure. Enfin, j'identifie très schématiquement deux cas de figure. La personne qui va avoir peur de parler pour pas mettre les pieds dans le plat et donc par délicatesse ne pas parler. Puis la personne qui va pas parler mais qui va stigmatiser, quel que soit le comportement, il est délétère parce que ça aide pas la personne qui, elle, n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui tende la main d'ailleurs, il y a un slogan que j'avais vu quelque part, en parler, c'est commencer à soigner ou oser en parler, enfin, je sais plus. Donc, ça, c'était... Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Et pour revenir au début de l'histoire, c'est que grâce des rencontres et le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, j'ai fini par rencontrer le soin, parce que moi j'ai appelé donc c'est une maladie. Moi, dès que j'ai entendu le mot maladie, je suis scientifique de formation, et moi donc quand j'ai entendu maladie, j'ai en face, moi j'ai mis soin, et d'accord, donc possibilité d'aller mieux. Et ça a mis un certain temps, puisque j'ai rencontré le soin en 2011, et je ne bois plus d'alcool depuis 2015, donc ça fera 5 ans là bientôt.
Bravo.
Merci de me dire ça, mais je continue sur ce chemin parce que je vais mieux en fait.
Si je vous dis bravo, Sébastien, c'est que je le pense profondément. Ça n'est pas un bravo ironique du tout, hein, que je vous donne.
J'ai bien compris.
C'est quelque chose de très. Enfin, vous savez, dans les groupes de parole, lorsqu'on énonce, depuis combien de temps on a. Voilà, c'est vrai que l'assistance vous dit bravo souvent. En tout cas, je l'ai vu souvent dans des documentaires ou à la télé.
Moi, j'ai participé à des groupes et je participe encore, hein, notamment pour ne pas les citer, alcooliques ou narcotiques anonymes. Oui. Effectivement, on dit bravo. Mais ce que je veux dire, c'est que bravo, ça me touche, mais. Disons que ce que je voulais, enfin le message ce que j'essayais de passer derrière, c'est que bravo, ça me fait plaisir, mais c'est surtout que je le fais un peu par égoïsme, c'est-à-dire je le fais parce que ça m'arrange, c'est-à-dire que je le fais parce que je vais mieux depuis que j'ai pu me sortir des griffes de cette dépendance, c'est-à-dire que si je souffrais encore plus aujourd'hui sans produit, mais je retournerai dans le produit qui est en crevé.
Qu'entendez-vous par là exactement?
Alors voilà, là, c'est ce que je veux dire, c'est que autant que le produit alcool, parce que pour moi c'était l'alcool, était un moyen d'oublier, d'être défoncé, de pas voir ce monde justement, et après je vais y venir rapidement. Ce monde qui est très, que je répugne, donc l'alcool était un moyen de fuir. Et ben en fait, je prends moi le fait de ne plus consommer comme un moyen et pas comme une fin en soi. C'est-à-dire c'est un moyen et un moyen d'aller mieux, un moyen de vivre ma vie, un moyen de prendre ma vie en main, un moyen de piloter ma vie, un moyen de kiffer en fait. C'est-à-dire que de subir ma vie, je suis maître de mon navire et je suis maître à bord. C'est ça en fait, c'est-à-dire que le fait de ne pas boire, l'abstinence ou peu importe le mot qu'on utilise, c'est pas un but en soi, c'est vraiment un moyen que j'utilise pour justement aller bien et pouvoir enfin vivre quelque chose de correct, sinon heureux, en tout cas le moins malheureux possible. Et j'ai passé en 5 ans des moments difficiles, mais je sais, et j'en suis persuadé qu'avec de l'alcool ou un autre produit, ça aurait été encore pire. Donc il s'est passé tout ça, et sauf que voilà. Donc et j'arrive à cette histoire donc de 2015, je reviens et ça va mieux. Sauf que je suis conscient que je suis rentré en 2006, que moi, on m'a mis comme on m'a pris comme un naze parce que j'étais naze, hein, c'était à côté de la plage, je le reconnais. Et conscient de ça, je me suis dit, je vais donc avoir à refaire mes preuves. Et donc un an, deux ans, trois ans se sont passés où je percute vite. Et en fait, j'ai fait des tests neuropsychologiques au mois de janvier cette année qui ont décelé qu'en fait, le terme est un peu galvaudé en ce moment, on en parle beaucoup, mais... Moi, j'ai passé des tests, et entre autres la Weiss 4, et on m'a détecté un HPI au potentiel. Et ça s'était d'ailleurs vérifié. Enfin, il y avait des prémices parce que j'étais précoce enfant, premier de ma classe jusqu'à la terminale et même au bac, enfin bon, des trucs comme ça. Sauf qu'on ne se posait pas la question, surtout il y a 20 ans. J'avais quand même passé un test quand j'avais 6 ans au CP, et puis il y avait des trucs, mais bon, à l'époque, on ne savait pas où trop. Et puis on pensait, en plus, parce que je me suis documenté sur la question, on pensait qu'à l'époque, que la précocité ou ce genre de choses était vrai, enfin existait pendant l'enfance, mais tout se rééquilibrait un peu chez tous les adultes à l'âge adulte.
Oui, puis on a, pardonnez-moi de vous interrompre, mais on a longtemps pensé aussi, parce que c'est le souvenir que j'en garde, c'est que la précocité, tout ce qui était intelligence QI supérieure, était quelque chose qui obligatoirement était un avantage. Or, on le sait maintenant, c'est loin d'être un avantage, et on sait combien ça crée d'ennuis, de troubles et une problématique c'est de ça. Se lier aux autres.
Et c'est ça, de difficultés exactement. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que justement, c'est les gens ont tendance à penser, et même encore aujourd'hui, ont tendance à penser, ton QI est plus élevé, tout devrait aller, sauf que le problème, c'est que c'est pas qu'une question de QI, il y a différentes formes d'intelligence, et il y a surtout un rapport au monde différent, avec un système de valeurs, et presque une psychorigidité dans les par exemple, il y a ça se retrouve, moi, dans la littérature, j'ai trouvé, et je m'y retrouve, il y a une intolérance, qui peut déclencher des colères assez... on se demande si c'est la même personne, par rapport à l'injustice, par exemple. C'est des choses qui sont insupportables, alors que c'est ce genre de choses. Et souvent aussi, ce qui peut se passer, c'est que il y a des choses qui peuvent être évidentes pour quelqu'un, pour moi, par exemple, et je vais supposer que ça l'est donc pour l'autre. Sauf que ça ne l'est pas forcément. Donc la personne va répondre à côté par rapport à ce que je demande. Et moi, je vais comprendre qu'il se fout de ma gueule. Enfin, excusez-moi de l'expression.
Oui, vous allez interpréter.
Mais en fait, c'est parce qu'en face, la personne ne comprenait pas ce que... Enfin, je ne suis arrêté pas à l'expliquer, mais c'est que... je vais essayer juste de façon de revenir à l'essentiel parce que ça aussi.
Ramener à vous et concrètement, si vous le voulez bien,
voilà,
Sébastien.
Et donc, voilà, c'est ça. Donc, tout ça, pourquoi je suis parti sur tout ça, c'est que moi, après quelques années hors alcool, d'ailleurs, l'alcool a été une façon de fuir le monde que je ne comprenais pas. Enfin, bon, et sans alcool, au bout de 5 ans, parce que je suis suivi toujours en thérapie par un psychologue et une psychiatre, et ça va toujours pas, et encore cette année, la 2019, burn-out, et parce que justement je fais des choses à fond, mais je faisais des choses à fond pas pour les faire à fond, mais parce que c'est pour moi, dans ma façon de fonctionner, ou bien je les fais, ou bien je les fais pas, mais je les fais pas à moitié. C'est ce côté un peu, ça sert à rien de faire les choses à moitié. Du coup, sauf que là où j'ai commencé à péter les plombs, c'est que deux ans, trois ans, je commence à préparer des sélections, et en plus, pas pour avoir plus d'argent. Moi, c'est parce que j'avais l'impression que je pouvais proposer
progresser
des choses.
Progresser.
Et puis, oui, et surtout, envie de proposer des choses.
Oui.
C'est-à-dire, j'avais été sur le terrain, j'avais vu ça, ça marche pas, ça c'est pas. On pourrait, mais sauf que j'étais à un niveau où je pouvais pas proposer. Donc j'avais envie de progresser, comme vous dites, pour justement être en position de pouvoir proposer des choses. Mmh. Et c'était ça ma réelle motivation. D'ailleurs, je l'ai dit comme ça à l'oral, parce que la première année, je ne suis pas allé à l'oral, alors que pendant toute l'année, je faisais des écrits de préparation. J'avais entre 14 et 18, et le jour J, je prends un 9. Et puis l'année d'après, je fais à l'oral, et puis je prends un 8 alors que ma chef me dit vous, votre oral est très bon. Enfin bon. Sauf que j'ai un passif avec l'administration, c'est-à-dire ces années d'alcool. Je suis de surcroît homosexuel et je m'en cache pas, mais j'arrive pas à ma pancarte, mais j'ai été victime d'homophobie sur mon lieu de travail.
Mmh. Est-ce que vous voulez bien me préciser dans quel domaine d'activité est votre administration ou c'est gênant ?
Je préfère pas.
D'accord, très bien.
Je préfère pas, c'est une administration... C'est un ministère, en fait. Hein.
D'accord, mais ça n'a pas à voir, par exemple, avec la protection de la jeunesse, la protection des mineurs.
Non.
Ou,
non.
Si vous voulez, on peut penser que lorsqu'il s'agit de terrain avec des sujets sensibles, comme la famille, comme les enfants, que, en fait, une addiction puisse venir inquiéter les supérieurs, même si, lorsqu'elle est réglée, cette addiction n'a pas à les inquiéter.
Oui.
Mais il y a des administrations où ça peut peser plus que dans d'autres.
Je comprends bien, et d'ailleurs, je pense que c'est sûrement une des raisons qui ont fait que, comment dire, ils ont peut-être pas confiance, sauf que ils arborent, et c'est là où ça me met en colère, que les concours sont anonymes, ce qui est supposé être le cas.
Complètement.
Donc mon passé addict, et je sais pas, peut-être un jour je serai addict à nouveau, j'espère pas, mais peut-être, je sais pas. Mais ça ne doit pas transparaître lors d'un concours.
Non,
ils ne doivent
non,
pas savoir. Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, il y a une espèce d'hypocrisie, et je sais qu'ils le savent, et que c'est ça qui bloque.
C'est euros. Ces euros que vous passiez, Sébastien, oui. Vous les passiez avec des personnes qui vous connaissaient ou vous les passiez donc il n'y a aucune raison que ces gens-là connaissent votre passé addictif ou votre homosexualité
parce que ça peut arriver, le hasard peut faire que on se rende compte que on connaisse un des membres du jury. La règle est de dire il faut changer de jury parce que je connais cette personne. C'est-à-dire que si on connaît la personne, si on est devant un jury ils sont deux, un homme, une femme, on connaît l'une des deux personnes.
Vous pouvez le faire changer.
On ne peut pas passer. Et on doit le faire.
D'accord.
Sinon, pour des raisons simplement d'équité et de neutralité par rapport à la note, quoi. Sauf qu'ils arborent haut et fort que tout ça est confidentiel. Sauf que voilà. Donc tout ça, en fait, ce qui m'a donné envie de témoigner, c'est un peu ce coup de gueule et cette dénonciation. Surtout que je pense que je suis un être con, les tests l'ont prouvé. Et puis, je m'en vante pas. C'est juste que surtout pas. D'ailleurs, je le dis pas. Hein. J'ai un frère jumeau. Mon frère jumeau, mes parents et puis mes soignants le savent, c'est tout. Et ça, je le sais depuis le 13 mars. On a été confinés le 17. J'ai même pas pu travailler sur cette question. Donc, je suis en plus en boucle avec ça et confiné chez moi à Paris.
Donc, du coup, en fait, concrètement, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, vous passez ces tests, comment se passe-t-il ? Est-ce que, finalement, vous êtes en train de m'expliquer que vous avez subi une sorte de jugement, de ségrégation
Pour moi, c'est de la discrimination.
De la discrimination, d'accord.
Ouais, par rapport à ma sexualité, par rapport au fait que je rentre pas dans les cases, dans le moule, par rapport au fait que je pense que j'ai fait un oral qui était je pense, bon, mais original et je veux dire, je vais vous dire quelque chose de très factuel. J'ai vu l'oral d'une collègue qui a eu 14 à l'oral, qui parlait du travail en équipe en disant, quand une collègue, je suis à deux doigts de la, enfin, je suis très, très proche, à deux doigts, c'est presque pas une caricature. Le travail en équipe, elle écrit quand une collègue était pas là, on se répartissait le travail entre bonnes copines, enfin un truc du genre. Je veux dire, ça c'est au manager, donc elle a 14. Et puis moi je parle de la LOL, et moi je prends 8. Et le pire c'est que quand je demande à avoir ma copie, on me dit ça va être compliqué. Enfin ma copie, enfin le compte rendu de mon oral,
d'autres
ça va être compliqué. Et puis la personne que je vais voir à cette occasion me dit mais mettez quand même mon nom, ça peut aider. Mais je dis mais c'est pas vous qui voulez ma copie, c'est moi. Pourquoi est-ce que vous, alors donc il y a des passe-droits, plus on le sait, mais là c'est, je veux dire, ne soyez pas stupide au point que vous le disiez dans moi. Donc ça me rend ça me met dans une colère.
Oui, dans une révolte aussi.
Oui, alors, et une révolte.
Et,
ouais.
Et donc, vous pensez réellement donc que ces personnes, ces jurys qui ne vous connaissent pas, vous discriminent tout de même? Ou est-ce que vous pensez que, de par le fait d'avoir été souvent discriminé, souvent moqué, souvent victime...
Ce que je pense, c'est qu'ils ne me connaissent pas, mais ils ont accès à mon dossier.
Avant donc de vous entendre par oral.
Avant de m'entendre.
Et dans ce dossier, en fait, il y a des choses qui vous desservent.
J'imagine qu'il y a mon passé avec les absences engendrées par la.
Oui, ce qui est totalement anormal.
L'alcool et le soin.
Ce qui est horrible.
Il y a cet esclandre que j'ai fait au moment où je me suis fait traiter de PD sur mon lieu de travail. J'accepte pas, je suis désolé. Tu m'aimes pas, je t'aime pas, mais tu me respectes et je te respecte, c'est la base. Et donc, me faire traiter de PD sur mon lieu de travail.
On s'arrête 30 secondes, enfin pas 30 secondes même, parce qu'on a tout notre temps, Sébastien. Parce qu'on a peu parlé d'homophobie sur cette antenne. On en a parlé un petit peu en septembre. J'aimerais en parler avec vous parce qu'on en a l'occasion. À propos de quelle situation, en fait, un de vos collègues en arrive à vous traiter de sale PD et parlez-moi de cette homophobie, en fait, au travail. Parce qu'en plus, on est dans un ministère. Donc, plus là qu'autre part, on se doit. De respecter, en fait, de respecter les gens. Bon, vous allez m'expliquer pourquoi, comment ça s'est passé.
Eh oui, eh bien justement, c'est là en plus que c'est venu me desservir, en plus parce que ce qui s'est passé, c'est que un collègue qui buvait, on savait qu'il buvait beaucoup, moi j'étais revenu, j'avais arrêté. Lui, il buvait beaucoup, il s'en cachait pas, bon. Et le chef de service de là où je travaillais à ce moment-là annonce pendant une réunion qui a lieu fin novembre, on fait le Beaujolais la semaine prochaine, donc finalement le 1er décembre. L'adjointe le regarde avec des yeux en disant mais le Beaujolais c'était il y a 3 semaines et puis je suis pas d'accord. Et le chef étant le chef, il le fait quand même. Elle est pas d'accord, surtout que cet agent avait déjà dérapé précédemment. Moi j'étais pas dans le service quand ça avait eu lieu, mais ça avait été le cas. Moi, j'étais pas non plus d'accord avec tout ça, donc je suis monté ce jour-là et j'ai bu un verre de jus d'orange et je suis redescendu au travail. Ils ont fait la fête tout l'après-midi et donc lui, ce collègue, est redescendu complètement ivre. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'est lâché, qu'il m'a traité de PD et qui m'a même dit, qui a même dit, et c'est là son ami, son collègue ami, il lui a dit de pas finir sa phrase parce que il a dit on devrait tous les, et il a pas fini sa phrase.
Bon, oui.
Parce que dommage pour nous, mais heureusement pour lui. Et il a dit non, va pas plus loin. Sachant que en face de moi, il y avait une collègue qui elle-même est lesbienne. Donc on se l'est pris tous les deux dans la gueule sur un espèce d'open space. Donc moi je vais voir l'adjointe en lui disant, et quand je vais voir le chef, il dit arrêtez avec vos enfantillages, je fais monter une fiche de signalement et tout ça, et puis pouf, ça fait pouf, parce qu'évidemment dans l'administration ça n'existe pas, surtout que le chef était indirectement responsable.
D'accord. Oui, je vous écoute, oui. Sébastien. Oui.
Il était indirectement responsable dans la mesure où il avait organisé ce Beaujolais alors que l'adjointe était contre, parce que cette personne avait déjà dérapé et elle a dérapé encore ce jour-là avec moi. Et que moi, me faire traiter de PD sur mon lieu de travail,
c'est totalement, totalement intolérable. Et... 23 heures passées de 4 minutes et vous êtes sur votre radio, sur Europe 1, et c'est votre libre antenne qui courra encore ce soir en direct jusqu'à 1h du matin. Nous sommes pour l'instant avec Sébastien, nous parlons de sa situation au travail, cette situation que vous nous contiez il y a quelques minutes, Sébastien, et cette homophobie dont vous avez été victime. L'incident le plus visible ou cette homophobie, oui. elle était latente.
Alors, elle était latente avec cette personne, sachant que j'ai pas précisé quelque chose, c'est que au moment où ça s'est produit, je tournais sur différents services. Ce qui fait que, et ça s'est passé le 1er, et j'ai changé de service le 1er décembre, et j'ai changé de service le 1er janvier, et l'administration a fait en sorte que je ne revienne plus dans ce service. Et en gros, du coup, je n'ai plus affaire à cette personne. Grand bien m'en a fait. Oui. Sauf que, cette personne continue à... Parce que j'avais entendu parler de lui avant d'arriver dans le service. J'ai entendu parler de lui et il continue à... Il n'est pas inquiété alors qu'il commet des actes, voilà.
Mais quelle a été votre réaction suite à cet incident ? Est-ce que vous l'avez porté devant votre hiérarchie ou pas ?
Oui, mais absolument. C'est-à-dire que moi, quand j'ai dit « Ah bon ?» Moi, je suis resté calme et je ne l'ai pas insulté parce que ça aurait été retourné contre moi. J'ai dit « C'est comme ça ?» Donc, j'ai dit « Bah écoute, je vais aller voir madame... » qui est décédé d'ailleurs, et je me dis finalement que c'est eux qui l'ont tué tellement ils étaient horribles. Mais bon, je suis allé voir ma chef, mais pas le chef, l'adjointe, parce que le chef avait organisé le pot, donc je suis allé voir l'adjointe, je lui ai dit voilà ce qui s'est passé, je lui ai dit calmez-vous, est-ce que vous voulez qu'on fasse une fiche de signalement ? Je lui ai dit mais absolument, il en est tout à fait question, et ça a été fait, je l'ai rédigé. Avant de l'envoyer, on est passé par le chef, qui disait mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont des enfantillages.
Ah bon, ce sont des enfantillages.
Voilà, ce sont ces mots, le chef de service. Ouais. Donc, c'est quand même remonté. Je n'ai jamais... Alors, peut-être que c'est la procédure que je ne sache pas ce qui se passe pour la personne intéressée. Enfin, pour moi, j'ai juste été sorti de ce service et plus en contact. Parce que, de façon générale, ça se passe bien. Je ne suis pas victime d'homophobie au quotidien. Je vis dans une ville où ça se passe bien. Mais...
cette histoire-là,
cette histoire, je l'ai pris en pleine face et je suis pas du genre à je veux dire tu m'aimes pas, je t'aime pas, mais le minimum c'est le respect.
Bien sûr, c'est arrivé il y a combien de temps ça, Sébastien, en fait?
Ça c'était en 2016.
2016, donc vous n'étiez plus dans l'addiction, dans aucune addiction. Non. Ce qui aurait pu vous reprécipiter, hein, d'ailleurs, dans tout ça.
Oui, et ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, j'en ai vu d'autres, hein, parce que ça, les concours où je me prends 15, 16, 17 toute l'année, et puis le jour J, je me prends un 8, l'année d'après, je prends un 14, parce que ça va quand même se voir, il a 18 toute l'année, puis il se prend des tôles. Donc je prends un 14, je fais un très bon oral, et puis je me prends encore un 8, enfin bon, des choses...
Qu'est-ce qui pourrait faire changer cette situation, à votre avis, Sébastien?
Et c'est pour ça que j'ai explosé en plein vol l'année dernière, parce que en plus, moi, l'année dernière, avant que tout ça n'arrive, j'étais sur deux concours en plus. Parce que la première année, j'en ai tenté un. Ayant tenté un concours, refaisant, c'était pas les mêmes devoirs, mais c'était les mêmes principes. Je me suis dit, je vais me donner plus de chance, donc j'en ai tenté deux. Donc j'étais sur deux concours. J'étais sur le boulot que je faisais à fond, parce que j'ai tendance à faire les choses à fond. Et en plus, quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi, parce que par rapport à ce problème d'addiction, je me suis formé en ce qu'on appelle aujourd'hui les patients experts. Les patients experts, ce sont des patients qui sont passés par la maladie, la dépendance, mais ou le diabète, et qui deviennent un peu acteurs de leurs soins et qui deviennent finalement des aidants. C'est-à-dire qu'ils sont un peu un trait d'union entre les soignants, par exemple les addictologues, et les patients en début de parcours, qui, parce que le patient expert, et moi j'ai validé un diplôme qui fait que j'ai ce statut de patient expert, qui fait que je suis pas un soignant, j'ai pas la théorie de la médecine ou de la psychologie, mais j'ai en fait l'expérience un peu consacrée et que j'ai un savoir expérientiel. C'est-à-dire que quand une personne addicte va me dire, ben voilà, je dis, ouais, je sais ce que tu dis, là, je l'ai vécu, je te comprends. Et j'ai pas la blouse blanche qui parfois peut être une barrière quand un patient arrive comme ça dans les soins et il voit la blouse blanche, je lui dis, qu'est-ce qu'il en sait, lui, avec sa blouse blanche, sa théorie scientifique. Moi, quand j'arrive, mais je dis, moi, nous, les patients experts en général, on n'a pas la blouse blanche et on est à égalité et en même temps, on a une formation théorique qui nous permet d'aller faire ce qu'on appelle le bilinguisme, c'est-à-dire de traduire un peu le langage du patient vers le soignant, et puis le soignant, quand il nous dit un truc, on peut faire passer le message vers le... Donc j'ai fait aussi cette formation. C'est pas trop, c'est j'arrivais à mener les choses de front et j'étais pas fatigué. Sauf que là où j'ai pété les plombs, c'est que quand on m'a dit... Quand j'ai vu que j'étais pas admis, j'ai dit bon. Et je me suis dit, ça s'est joué un peu.
Bon, alors, comme il y a quand même beaucoup de monde ce soir, Sébastien, oui, 39-21, oui, voilà. J'aimerais qu'on puisse conclure et que l'on puisse, on a très bien compris oui, les discriminations dont vous, ouais, faites partie.
En fait, juste pour conclure, c'est que là, je suis depuis un an en burn-out et ils ont eu l'effet complètement opposé de celui qu'ils voulaient, c'est-à-dire que je suis en burn-out et en arrêt et que je suis en projet de reconversion professionnelle parce que ce monde marche sur la tête. Et ce qui se passe en ce moment, là, cette crise mortifère et dramatique est finalement la conséquence d'un système qui dysfonctionne depuis des années. Et c'est un peu la conclusion que j'ai envie de faire, c'est que c'est ça, en fait.
Beaucoup de messages au 739-21 vous concernant, Sébastien. Beaucoup vous conseillent, alors c'est un peu facile aussi à dire, partez donc de la fonction publique par le biais d'une disponibilité et engagez-vous sur quelque chose qui vous plaise vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé la tête?
Mais absolument, sauf que je dois en référer à mon administration qui me met des bâtons dans les roues encore.
Et je vous ai pas parlé. Si vous voulez rejoindre le public, si vous voulez rejoindre le privé, pardonnez-moi, l'administration ne pourra rien faire de toute façon.
Non, mais il faut quand même que je leur, par exemple, que je leur demande une disponibilité.
Oui.
Et ça, que je par eux.
Et ça, vous et pensez ça, que.
Oui, ils sont capables de.
La refuser.
Mais c'est des projets, en tout cas, que j'ai en tête, ça c'est sûr. Sauf que pour faire quoi je suis en train de réfléchir à tout ça, en fait. Mais c'est pour aller vers quoi c'est vraiment le but, là. En fait, en ce moment, je suis en plein là-dedans, c'est ça.
Ouais,
c'est,
ouais.
Je suis en train de réfléchir à tout ça parce que. Parce que voilà, c'est.
Vous êtes en arrêt pour l'instant, de toute façon.
J'ai toujours mon poste, j'ai pas démissionné, j'ai
d'accord,
toujours mon poste.
Mais vous êtes en arrêt maladie. Mais donc, l'importance, ouais, le conseil que je vous donnerai par rapport à ce que vous vivez depuis un an, comme vous le savez, sans doute, vous avez dû vous renseigner maintenant sur le burn-out. Il est important, avant toute chose, que vous reconstruisiez de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire qu'avant d'entamer quoi que ce soit, un changement quelconque, il faut vraiment que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez rétabli, à nouveau fort, pour pouvoir affronter une quelconque situation, parce que vous savez que la première bataille que vous avez à livrer aujourd'hui, c'est celle-là. C'est vraiment que vous remontiez la pente et que vous vous sentiez mieux après, quand vous vous sentirez assez fort. Peut-être que ça vous paraîtra un peu moins difficile, un peu moins compliqué, et que peut-être vous aurez la force, une force supplémentaire pour affronter cette administration, parce que pour avoir pas mal d'amis dans l'administration, je sais que c'est extrêmement difficile. Beaucoup de SMS ce soir aussi vont dans le sens de vos propos concernant les jurys dans ces administrations où les notes parfois sont totalement incompréhensibles. C'est Caroline qui nous livre ce SMS au 739-21 ce soir. Elle dit « J'ai moi-même été cassée de façon scandaleuse par un jury de concours d'une administration parisienne. » Donc,
une des deux jurys qui m'a reçu ce jour-là, que j'avais moi quand même respecté le jury avec la veste et la cravate, m'a reçu en polaire quand même. On se demande où on est quand même. Mm-hmm. C'était plus que on était dans une dimension. Mais bon, c'est plein de choses comme ça. Les congés bonifiés qu'on accepte à mon frère jumeau et qu'on me refuse à moi, alors qu'on a quand même les mêmes parents, enfin, je veux dire, la même histoire, on est rentré à l'administration la même année, on est arrivé sur le sol de la métropole la même année, parce que je suis ultramarin. Et puis quand j'entends que là, on fait des pleurs, enfin, je comprends, les gens souffrent de ne pas voir leur famille pendant quelques semaines. Nous, on demande juste de voir nos parents une fois tous les 3 ans. Et ça, on me le refuse. C'est monstrueux.
Oui.
Ouais. Et non, mon frère, il y a droit. Mm-hmm. Jumeau, qui est dans la même administration quoi. Donc tout ça, c'est juste, ça me donne envie d'ouvrir. C'est pour ça que j'ai été hospitalisé, parce que j'étais à deux doigts de me foutre en l'air. Et là, je suis en train d'essayer de remonter, mais c'est pas facile. Mais voilà, c'est vraiment pour pousser ce coup de gueule contre vraiment un système qui va mal.
Et un système très opaque, j'ai l'impression, dans sa manière de fonctionner.
Très opaque et volontairement. Parce qu'ils ont des choses à cacher. Mmh.
En tout cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Sébastien, dans les mois qui viennent, de l'évolution de votre situation. Vous connaissez le chemin maintenant. Vous pouvez nous rappeler quand vous voulez. Et puis, ça serait bien qu'on sache déjà que vous vous réparez de toutes ces fragilités causées par cette situation. Et puis, n'oubliez pas, en fait, que, bon, vous le savez, que ces personnes qui sont les auteurs d'actes homophobes sont souvent plus bêtes que méchants. Bon, quand ils ne sont pas les deux à la fois, mais bon, vous savez, ça provoque beaucoup de réactions ce soir et au Standard d'Europe 1 au 739-21, parce que voilà, l'homophobie est quelque chose qui fait réagir beaucoup l'auditoire de cette libre antenne. Sachez que vous avez beaucoup d'auditeurs et d'auditrices ce soir qui sont de tout cœur avec vous, Sébastien. Je vous souhaite une belle soirée.
Merci. Excusez-moi d'avoir été un peu.
Mais je vous en prie, on est là pour ça. D'accord ?
Merci beaucoup. Et je tâcherai de vous tenir informé.
Avec plaisir. Surtout, vraiment, je vous le dis, ça n'est pas une parole en l'air. Vous savez où on est. D'accord ?
Merci beaucoup.
Je vous en prie, Sébastien. Bonsoir.
Merci, au revoir.